En fait, quand t'es passionné et que t'aimes ce que tu fais, t'as aucun obstacle devant toi. C'est que des opportunités. Et aujourd'hui, en fait, je travaille pas pour un salaire, je travaille pour la liberté, pour l'amour de donner, pour en fait être aligné avec moi-même. Si t'as ça en toi, tu peux tout faire, tu peux avoir tous les obstacles du monde, mais t'arriveras quand même à avancer.
Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Yasmine.
Salut Alec.
Comment tu vas?
Ça va nickel, et toi?
Eh ben écoute, en pleine forme, ça fait super plaisir de t'avoir ici. Yasmine, c'est super drôle la façon dont on s'est, on peut dire, rencontré, en tout cas rencontré virtuellement sur LinkedIn, en tout cas pour moi sur LinkedIn, dans le sens où j'utilise le service que tu proposes depuis maintenant plusieurs années, Willence, willence.fr. Je le recommande à bon nombre de personnes autour de moi. Tu es du coup la cofondatrice et CEO de Willence. On va pouvoir parler de ce business model, de ce service et de la solution que vous avez mis en place sur le marché français tout entier, que je trouve vraiment super intéressant, tant par sa facilité d'utilisation, mais aussi sa complexité d'exécution et les différents enjeux qu'on peut sous-estimer parfois dans ce type de business model. Donc, ça me fait super plaisir de t'avoir ici. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, je sais qu'en plus, c'est la première fois que tu fais cet exercice du podcast.
Exactement.
De l'interview. Donc, merci de m'accorder ce privilège. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore?
Mais en tout cas, merci déjà Alec de m'inviter, comme tu l'as dit, hein, c'est la première fois que je fais cet exercice, donc je sors de ma zone de confort et de mon quotidien. Ben écoute, moi je suis Yasmine, j'ai 32 ans maintenant, j'entreprends depuis que j'ai 25 ans, et en 2017, j'ai créé avec mes deux anciens associés, Mathieu et Kamel, du coup, la société Willence, qui était au départ une simple plateforme de réservation, puisqu'on voulait juste solutionner la réservation instantanée de photographes à l'heure, à cette époque-là. Et finalement, en 2019, on a basculé en tant qu'agence, puisqu'on a trouvé qu'on avait une plus-value auprès de nos photographes sur le service commercial auprès de nos clients.
Mmh, ouais, complètement, complètement. Et tu dis donc que tu as démarré dans l'aventure entrepreneuriale il y a de ça 7 ans. C'était quoi ta toute première expérience entrepreneuriale?
Alors, c'est trop drôle parce qu'en fait, j'avais mon meilleur ami et son copain de l'époque qui avait créé une maison de couture à partir de Londres. Et ensuite, ils sont revenus s'installer en France et vraiment, on débutait tout juste. Ils confectionnaient à la maison leurs patrons et leurs tenues. Et finalement, on était très jeunes, on a créé une petite communauté. Et après, bon, ben, pour le coup, ça n'a pas forcément fonctionné au niveau des tempéraments. Et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on prenne un peu plus de temps pour soi, pour entreprendre entre copains. Mais c'est vrai que je garde une expérience trop chouette de la sensation d'être libre de ses actions, de ses choix. Et c'est là, tout de suite, je me suis dit que l'entrepreneuriat, c'était pour moi. Et tout de suite après, pour ma part, j'ai continué à essayer des petites choses comme une boutique d'antiquaires numérique. Après, je suis devenue agent de photographe pendant 6 mois parce qu'en fait, j'adorais en fait me débrouiller, trouver un problème et essayer de la résoudre. Et c'est comme ça que je suis arrivée, du coup, à créer Willence.
Ok, je vois. Donc, et pourquoi la photo? Alors là, on entend que tu as été agent de photographe pendant 6 mois, mais pourquoi la photo spécifiquement? Pourquoi pas, par exemple, la vidéo? Pourquoi pas les fleuristes? Pourquoi pas... Je te drop des idées comme ça, mais qu'est-ce qui fait que tu as choisi ça spécifiquement?
Ben, écoute, en fait, à l'issue de la maison de couture, ben moi, j'étais juriste de formation. Je suis juriste en droit social de base. Et vu que j'avais goûté pendant quelques mois la liberté d'entreprendre, j'avais pas envie de retourner dans un schéma salarial. Et finalement, j'ai appelé un copain qui tenait un resto place de la Bourse et je lui dis écoute, je suis un peu en galère, j'ai démissionné de mon job, j'ai une entreprise que j'ai essayé de monter qui coule. Est-ce que tu aurais un job de serveuse à me proposer? Et il m'a dit bah c'est okay. Cool, tu viens en extra, donc tout va bien. Le temps de rebondir pour moi, c'était trop chouette, c'était une nouvelle aventure. Et finalement, en fait, ce pote-là, c'est un photographe, c'est un artiste photographe. Hein. Il ne fait pas ce que nous faisons, nous, actuellement, donc des photos commerciales. Lui, c'était vraiment un artiste photographe et il avait besoin de quelqu'un qui l'aide à vendre ses photos. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai rien à faire. J'ai envie d'essayer des nouvelles choses, si tu veux. J'ai la tchatch, j'ai la fibre commerciale. Si tu veux, je t'aide à vendre tes clichés. Et petit à petit, en fait, je suis devenue son agent. On organisait des expos. J'ai une deuxième photographe qui était intéressée par le travail que je faisais avec, Sam. Et donc, petit à petit, en fait, j'avais créé un petit réseau et j'organise des petites expos à droite à gauche sur Paris. Et en janvier 2017, j'ai un pote, Kamel, qui me dit « Écoute, Yasmine, j'ai une petite idée. » Alors lui, il est éditeur d'albums photo, donc il travaille aussi avec des photographes. Il me dit « En ce moment, tu travailles dans la photographie et tout, j'ai une petite idée de plateforme de photographes où qu'on se voit pour qu'on en discute, j'aimerais bien savoir ce que t'en penses. » Et moi, cette période-là, c'était un peu la dèche, hein, parce que mes photographes, on vendait, mais c'était pas assez. Moi, je touchais une com, c'était vraiment c'était pas cool pour eux, dans le sens où ils n'avaient pas une rémunération régulière. Donc, je leur trouvais des fois des petites missions mariage à faire pour arrondir les fins de mois. Et l'alignement des choses, c'est que mon pote Kamel me propose cette idée. Donc, je vais le voir, on en discute. Et finalement, en fait, ça, c'est clairement ce que j'étais en train de faire à ce moment-là. Et je me suis dit, vas-y, go, on essaie de monter un petit business ensemble. Et à ce moment-là, c'est comme ça que Willens est né.
Génial, c'est magnifique parce que c'est une idée toute simple, faite par en fait la nature des choses et des enchaînements successifs. Et vas-y, on va lancer un petit business, etc. Et finalement, tu sais, il y a beaucoup de gens qui veulent lancer des marketplaces ou qui se disent tiens, je vais lancer ci, je vais lancer ça, je vais connecter tel type de personnes avec des acheteurs, etc. Et c'est un business qui paraît sur le papier d'une évidence et assez logique, etc., mais qui finalement, dans l'exécution et dans ta capacité à aller chercher de la clientèle, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Au départ, les premières étapes, comment est-ce que vous vous y êtes pris justement pour pouvoir sortir votre épingle du jeu, réussir à trouver vos premiers clients, être rentable, pouvoir en vivre et pouvoir développer l'activité? Parce qu'aujourd'hui, Willens, c'est quand même une belle plateforme. Vous êtes présent sur toute la France. Vous avez, je ne sais pas combien vous avez de photographes, ça peut être intéressant d'avoir ce chiffre, mais j'imagine des dizaines de photographes, si ce n'est des centaines, et des milliers de clients potentiellement. Donc c'est plutôt une très belle réussite, mais ça s'est fait, j'imagine, étape par étape et un parcours semé d'embûches.
Exactement. Alors déjà, je réponds à ta dernière question. Actuellement, on a 2500 photographes actifs sur la plateforme. Okay. Donc, répartis dans toute la France. Donc, on est également en Corse. Par contre, on n'est pas dans les dom-toms pour le moment. On a essayé, mais vu qu'on n'est pas sur place, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de fédérer quand on n'est pas des locaux. Mais toute la difficulté, en fait, d'avoir une marketplace, c'est de savoir comprendre son client. Et nous, on avait déjà une base avec mes associés, c'est que leurs clients achetaient des albums photos. Donc, on savait un peu plus profiler le type de client, surtout que nous, on souhaitait permettre à nos clients de réserver à l'heure. Comme tu le disais si bien tout à l'heure en off, ce qui est trop cool, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un photographe toute la journée, toute l'après-midi, une heure, une demi-heure, 1h30, selon ce qu'on a besoin de faire. Ça suffit amplement. Mais là, en fait, quand on a monté le business, on s'est dit quoi ? On a des photographes qui galèrent à trouver des missions. Ils n'ont pas le temps de répondre à des devis. Ils ont 36 000 demandes de devis qui n'aboutissent à rien. Les prix sont opaques, donc le client finalement réserve pas parce qu'il comprend pas le tarif. Et à côté, on a des clients qui... Il y a une demande, mais personne n'y répond. Donc les photographes, quand on a besoin d'un photographe, c'est du bouche à oreille.
Ouais, totalement.
C'est rare qu'on va sur Internet. Maintenant, un peu plus, hein, les choses ont changé. On va plus sur Instagram, où là, les professionnels se mettent un peu plus en avant. Mais en 2017, on n'avait pas ce branding des petites sociétés qui se mettaient en avant.
Ouais, totalement d'accord.
On avait des gros mastodons qui récupéraient tout. Mais sinon, les petits entrepreneurs qui essaient de vivre de leur passion, c'était un peu plus difficile. Donc en fait, l'objectif, c'était de profiler nos clients. Donc ça, c'était vite vu parce que mes associés, pour le coup, ça faisait déjà des années qu'ils entreprenaient et ils étaient spécialisés en B2C. Et moi, je connaissais en fait la galère des photographes. De trouver des clients, de répondre, d'avoir le temps entre la création, la compta, la démarche commerciale et tout son marketing. Donc en fait, avec la force des deux parties, on s'est dit, bon, ben, la plateforme, elle va tourner. Et avec le fait de pouvoir réserver à l'heure, déjà, on retire une grosse charge financière aux clients de se dire, punaise, je vais devoir payer 600 euros un photographe alors que j'ai besoin que de 10 photos.
Ouais, non, mais c'est clair. C'est vraiment souvent une grosse douleur pour la plupart des gens parce qu'ils savent qu'ils ont un besoin spécifique de photos, mais ça se trouve, imaginons, je suis en recherche d'emploi, je sais qu'un LinkedIn est important et un CV propre est important. J'ai envie d'avoir une belle photo professionnelle, mais j'ai personne dans mon entourage qui peut faire ça. Boum, je veux une belle photo, ou j'ai un bien que je veux vendre ou un objet que je veux vendre en particulier, je dois augmenter sa valeur perçue, je veux une belle photo. Ben voilà, et c'est clair que j'ai pas envie de passer des heures à le faire et payer des centaines d'euros pour ça. Donc vous êtes une solution qui répond parfaitement à ce besoin-là.
Exactement, et surtout, les clients n'ont pas besoin de débourser de grosses sommes juste pour une demi-heure de prise de vue. Mmh. Et dans tous les cas, même le photographe, il s'y retrouve parce que c'est très compliqué de réussir à convertir un client pour une demi-journée ou une journée entière. Sauf si c'est pour un mariage ou si c'est un corporate. Donc finalement, on était là aussi pour... changer en fait la manière de consommer la photographie, puisque la réelle volonté aussi, c'est de la démocratiser. Hein. Avec les smartphones, en 2015, déjà à l'époque, le marché avait perdu plus de 30% de sa demande, puisque les potentiels clients avaient trouvé en leur téléphone un photographe en herbe.
Ouais, donc, gratuit c'était... et disponible 24 heures sur 24.
Exactement, et qui finalement sont des photos que tu gardes sur ton téléphone que tu ne revois jamais. Mmh. Et c'est ça aussi, nous, notre enjeu cette année en 2023, en tout cas pour Willens, c'est de redonner de la qualité et, à la photographie. Te ouais. dire qu'en fait, la photo, c'est un moment qu'on rend éternel. Et qu'on n'a pas forcément avec un iPhone parce que ben, la photo, elle est mal cadrée, il manque toujours quelqu'un. Et c'est un moment qu'on a pris comme ça, alors que maintenant, quand on réserve une séance photo, en tout cas du moins avec nos clients actuels, on sent qu'on est en train de créer le moment avec eux. Ce moment de partage avec leurs proches, ou même ce moment où ben, le gars, il va entreprendre, il veut une photo LinkedIn ou pour son site, on va lui donner un moment où on va lui donner des conseils pour pouvoir se poser, pour avoir son attitude, pour pouvoir s'habiller. Parfois, on a des demandes pour s'habiller, alors qu'on n'est pas personnel shopper, quoi. Mais on est là, en fait, pour leur donner confiance et leur dire que le moment, c'est maintenant. Et ce moment-là, ils pourront le revoir et le réutiliser de manière indéfinie.
Ouais, non, je te rejoins à 100% et c'est vraiment ça. Finalement, vous êtes un support de mémorisation d'émotions pour pouvoir les revivre et ça c'est important, et une facilité d'accès à ça. Et tu mets le point sur un point qui est fascinant, et j'ai envie de te poser cette question, c'est la qualité. On a envie de redonner la qualité en 2023 à la photo. Tu l'évoques. Comment on fait pour garder un certain standard de qualité, un certain niveau d'exigence auprès de ces photographes quand justement on a plus de 2000 photographes disponibles dans son pipe et qu'à chaque fois on doit avoir un certain niveau de qualité? Moi, je vois la raison pour laquelle je t'ai invité aussi sur le podcast, c'est parce que je suis client et utilisateur de Willens depuis maintenant plusieurs années. À chaque fois que j'ai un besoin, j'utilise Willens, malgré le fait que je suis au capital d'une boîte de production où on fait aussi de la photo et de la vidéo. sur d'autres typologies de clientèle, d'autres typologies de prestations. Et du coup, quand j'ai besoin de quelqu'un que seulement une heure pour du contenu spécifique à chaque fois, où que je sois en France, je fais appel à vos services et j'adore et je suis satisfait et j'en parle. Et j'ai jamais eu de mauvaises surprises. J'ai eu parfois des effets waouh, genre vraiment, je me suis dit waouh, super, super rendu, super photo. Parfois, une fois en particulier, peut-être un effet moins waouh, mais j'étais quand même très satisfait et très content d'avoir mes photos que j'ai pu utiliser, que j'ai pu publier, que j'ai pu mettre dans mon feed Instagram, que j'ai pu utiliser en HD sur mes pages de vente, sur ceci, sur cela, par rapport à l'usage que j'en avais. Donc, ça dénote quand même que cette maîtrise de la chaîne de valeur et de du standard de qualité que vous voulez toujours avoir est omniprésent. Et je sais combien ça peut être compliqué à maintenir. Plus tu vas augmenter de ta masse de personnes disponibles avec laquelle tu travailles. C'est quoi le secret ?
Ben, le secret, en fait, c'est la sélection de nos photographes. Enfin, vraiment, c'est bête hein, à dire. Mais déjà, nous, alors, c'était pas le cas avant, hein, quand on était une plateforme, bien évidemment. Puisque pour la petite histoire, on était une plateforme, les clients pouvaient réserver le photographe selon le portfolio, selon la tarification. Pour nous, ça, c'était bullshit, hein, parce que les clients, ils allaient qu'au moins cher, ils regardaient pas du tout la qualité. Et nous, notre job n'était pas rempli. Donc, en 2019, on a basculé en tant qu'agence, et là, comme tu l'as dit, tu fais ta demande, tu ne vois pas le profil du photographe. C'est nous qui allons déterminer quel photographe va être sur le shooting. Ouais. Et en fait, nous, on a des photographes qui sont sélectionnés de base en amont. Ils passent un entretien téléphonique avec nous. On vérifie leur portfolio. On fait des tests terrain pour savoir si, bah, du coup, les photos qu'ils nous ont présentées, c'est pas du pipeau. Donc déjà, en fait, on a trois indicateurs qui nous permettent, en fait, de valider le photographe. Et nous, ce qu'on recherche, c'est que nous, on a un mood board, on a un univers WooLens, et c'est de trouver des photographes qui ont ce mood board, mais pas que. L'objectif, en fait, c'est d'avoir des photographes aussi qui sont bienveillants dans le conseil, qui soient passionnés. Et en fait, quand tu as des photographes qui sont hyper passionnés, qui sont hyper bienveillants, qui ont la niaque de réussir, parce qu'on a affaire quand même à des entrepreneurs hein, aussi, hein, c'est des freelances, et ben les shootings sont de qualité. On a, ouais, sur une année, et je ne devrais pas annoncer ces chiffres-là, mais sur une année, on a 2% de shootings ratés. C'est que dalle.
C'est infime.
C'est vraiment que dalle. Finalement, c'est généralement les 2%, c'est quoi ? C'est un photographe qui, de son côté, déjà, il est usé par la profession. Parfois, où il y a des problèmes d'humeur entre le client. Mais finalement, on parle pas de. C'est pas la qualité. C'est toujours, on va dire, l'attitude du photographe. Et ça, en fait, ça joue énormément. Et nous, en fait, notre rôle, c'est vraiment de recruter des talents qui ont envie de réussir, qui ont envie de pouvoir photographier et de vivre simplement de leur passion. Et c'est en ça que nous, vu qu'on est encore à taille humaine, on arrive, en fait, à déceler ça. On n'a pas, ouais, d'algorithme, clairement. On n'a pas d'algorithme qui confirme les entrées de nos photographes. Tout se fait à la main. Parce qu'on veut garder, tu sais, cet instinct de se dire, je vais faire confiance à ce photographe. Je sais que pendant un an, deux ans, trois ans, il va faire le taf.
Ouais, je vois totalement. Et 2% de shooting raté, effectivement, c'est infime comme chiffre. Félicitations pour ça.
Merci.
Vous avez toujours été sur ce ratio-là ou vous avez mis en place des actions concrètes pour le diminuer progressivement ? Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
On a toujours été dans ces indicateurs, on va, d'accord, dire. Peut-être qu'on était à 5%, mais en fait, dès le début, dès qu'on avait le moindre problème sur un shooting, ben, on décortiquait le problème pour trouver la solution directement pour que ça ne se reproduise plus.
Ok, je vois.
Par exemple, moi, il m'est arrivé la première année, moi, ça m'avait choqué. J'avais pas du tout pensé à ça sur mon business model. Un photographe qui fait un accident scooter en allant à un mariage, on fait quoi?
Et puis en plus, on peut pas décaler le mariage à demain. Ouais.
Bah ouais, encore, tu vois, une séance photo d'Alec, même si je sais que t'es hyper booké, je peux t'appeler, te dire, bon, écoute, on a un souci, je peux t'envoyer quelqu'un dans 2 heures. Mais un mariage, je peux pas dire à la cliente d'envoyer quelqu'un dans 2 heures.
Ouais,
c'est, le mariage, c'est maintenant, c'est pas après.
Ouais.
Bah écoute, on a dû mettre en place des solutions qui permet en fait à ce que aucun secteur de France ne soit vide de photographes et que par exemple si on a 20 mariages à Marseille, réellement c'est peu probable qu'on a 20 photographes qui se crachent en scooter, mais au moins on a un photographe d'astreinte pendant cette journée. Comme ça, on appelle le photographe, il vient direct.
Ok.
Okay. Pour le remplacer. Donc là, ça a été vraiment la grosse problématique chez Willen, c'est que la séance soit honorée, quoi.
Ouais, parce que c'est de l'humain, il y a des variables qu'on ne peut pas maîtriser. Comme
exactement.
Tu dis, voilà, on parle d'ici un accident, mais imaginons, ne serait-ce qu'avec le Covid.
Oui.
Je me réveille le matin, je ne me sens pas bien, je suis qu'à contact, je prends le risque ou pas, je suis photographe, je prends le risque ou pas, j'y vais. Il y a plein de choses comme ça. Les exemples sont pléthores, totalement. Mm-hmm. Et un autre point, 2% de shooting raté. Si c'est sûr 100 shootings à l'année, bon, ça fait 2 shootings. Vous faites combien de shootings à l'année en moyenne, si tu peux donner un chiffre approximatif?
On est à 3 000, 3 500 l'année.
Ah ouais, c'est incroyable. Donc ça fait en moyenne, dire que aujourd'hui par exemple, en moyenne, il y a 9 à 10 shootings qui vont être faits chaque jour avec Willens.
Exactement. Alors, toi tu me dis c'est waouh. Moi je trouve que c'est pas assez. Parce que pour moi, c'est pas assez dans la mesure où il y a encore trop de personnes qui ont besoin de séances et d'avoir un service aussi rapide et aussi safe. Moi, l'objectif, c'est qu'on puisse monter à 10 000 sur 2023 et que finalement, on puisse se dire que tous les problèmes qui peuvent arriver, en fait, n'arrivent pas. On monte crescendo parce que vu qu'on est sur l'humain, on est sur aussi une technologie qui mute hyper rapidement. Tu vois, encore hier, on m'a demandé si je pouvais envoyer un photographe à l'iPhone, par exemple. Donc, on veut progresser doucement, doucement, pour vraiment être sûr que dans 10 ans, on utilise encore Willens et que Willens correspond encore à la demande.
Ouais, je vois. Je vois totalement. Et c'est super important parce que, tu vois, si on reste dans la thématique de la photographie, un business qui n'a pas su, on en parle souvent, hein, c'est limite une leçon à l'école, qui n'a pas su justement s'adapter au changement, c'est Kodak.
Ouais.
Et là, c'est pareil, quand tu me dis ça, je me dis, ok, ils sont sur la bonne voie, ça fait du sens, c'est parfait. En plus, volonté de maîtrise de la croissance de façon à ne pas être dans un goulot d'étranglement qui fait que tu ne peux plus, par exemple, maîtriser justement la qualité des photos et avoir ce type de feedback. Ouais, c'est super intéressant. Quand tu dis on est à taille humaine, vous êtes combien aujourd'hui de collaborateurs chez Willens? Et globalement, le quotidien d'une agence chez Willens requiert quel type de compétences?
Alors aujourd'hui, on est 5. On est 5. On est déjà monté à 8, 10. Mais quand je me suis séparée du coup de mes associés pendant le Covid, je me suis retrouvée toute seule. Alors, quand tu es toute seule, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ben moi, de base, l'aspect commercial, c'est ce que j'aime le plus. Hein. Donc, pour le coup, c'est moi qui suis au service client.
Okay.
Et j'arrive pas à m'en détacher, clairement.
Okay, ça veut dire quand je recevais des WhatsApp ou je sais plus par quel support on parle pour booker un shooting ou autre, ou les messages sur la plateforme, c'est toi qui écris derrière?
C'est moi. Ouais.
Il y a beaucoup
de choses qui sont scalées, hein, bien évidemment, hein, automatisées. Mais en fait, c'est moi, parce que j'adore ça. J'adore parler aux clients, j'adore parler aux photographes. Et du coup, en fait, pour Willens, c'est être le plus communicant possible. Parce que, en fait, toute la journée, t'es au téléphone avec des photographes, avec des clients qui posent leurs questions sur leur livrable, parce qu'ils n'arrivent pas à joindre le photographe, parce qu'ils ont peur que le photographe ne vienne pas, ou parce que des clients qui veulent réserver sur du last minute. Donc en fait, la qualité qui est demandée pour rentrer chez Willen, c'est être le plus communicant possible.
Ouais,
c'est surtout ça. Et avoir beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie et de se dire qu'en fait, déjà, on n'est pas médecin. Donc, s'il arrive quelque chose, c'est rien de grave. Et être dans l'empathie avec nos photographes et nos clients, comprendre les enjeux de chacun. Et ouais. C'est ce que je dis à mes équipes à chaque fois, c'est... On crée des moments ensemble, donc il faut connaître son client et connaître son photographe comme si c'était ton pote.
Ouais, je vois totalement et je te rejoins. Et dans cette optique d'échelle humaine, ça me fait rebondir sur un autre sujet. Lorsque je me renseignais sur ce business model suite au booking de... non pas de ce shooting, mais de cet épisode pour le coup, du coup, j'analysais 2-3 business models autour de tout ça, notamment le business model de Miro.
Oui.
Et l'avantage en plus, c'est que Miro, il y a 2 choses. La première, c'est que son CEO, Thomas Rebaud, a fait pas mal de podcasts, d'interviews, d'articles, de par le fait qu'il était considéré, sa startup était considérée comme... une potentielle ou une future licorne française, où ils ont fait et démarré, initié une levée de fonds, je crois, à 200 millions d'euros.
Ouais, en 2019, effectivement.
Voilà, en 2019, exact. Et qui présentait, en tout cas, un business model sensiblement similaire à celui de Willens. Est-ce que tu peux nous partager, du coup, la différence entre ce que Miro propose ou proposait et ce que vous proposez, et qu'est-ce qui fait que, d'un côté, il y a cette volonté de rester à une échelle humaine, etc., et qui fait au final quand même la qualité, il faut le dire, de ce que vous faites. Et de l'autre côté, cette volonté de scaler. Et quand on va sur Miro, par exemple, le site, on peut voir que déjà, ils ne sont pas uniquement en France, ils sont dans le monde entier. Mais ouais, ça peut être intéressant de récolter ton feedback sur ce point de vue-là.
Bah effectivement, c'est drôle que tu m'en parles parce que pendant longtemps, je me suis comparée à eux, alors que... Okay. Quand on est entrepreneur, c'est ça. On regarde un peu trop les concurrents parfois pour se donner un peu de... c'est une petite veille, quoi. Et finalement, ouais. Quand on voit que des choses fonctionnent et que des choses ne fonctionnent pas chez soi, on se compare. Et moi, finalement, ce que j'ai appris, c'est de ne pas se comparer. C'est surtout ça. Ne pas se comparer parce qu'on n'a pas les mêmes missions et la même vision. Déjà, Miro, c'est une start-up qu'on a démarré un peu au même moment, mais eux, en fait, ils ont vraiment voulu régler la problématique d'avoir de la création d'images, de banque d'images pour le B2B. C'est okay. Surtout pour le B2B, donc avec une intelligence artificielle qui va retoucher en post-prod les photos. Donc, et avec une solution qui permet de réserver de manière instantanée un photographe sous un certain délai. En réalité, nous, on fonctionne de la même manière que sur la partie réservation instantanée. Mais d'accord. Nous, la volonté, c'est qu'on veut solutionner le marché de la photographie B2C. Donc, en fait, on peut dire que c'est des concurrents... Ça a été un concurrent indirect pendant un moment. Puisque eux, ils avaient leur vision, donc c'est-à-dire aider les entreprises à créer leurs images. Et ils ont été aussi pionniers des prises de vue immobilières. Et nous, en fait, on est pionniers dans la mesure où on veut solutionner le besoin, en fait, du B2C. Donc finalement, on a la même ambition, mais pas sur le même marché. Donc c'est ça qui est intéressant, et pendant longtemps je me disais mais c'est fou, ils lèvent des sommes astronomiques, mais on n'est pas sur la même valeur de marché.
Ouais. Vous avez fait des levées de fonds vous ou pas?
Pendant un temps j'ai voulu faire une levée de fonds.
D'accord.
J'ai tenté quelque chose et après le Covid. Et finalement, c'est pas dans mon ADN. C'est pas ma volonté de rester à taille humaine et de parce que nous on en fond propre depuis 2017. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai pas forcément envie de donner la main à des actionnaires, moi de mon côté, donner la main à des actionnaires et d'être dans le full rentabilité.
Ah, je vois.
Ouais, moi, c'est ce que je veux, c'est vraiment solutionner un marché. Et j'ai pas forcément envie de faire des choix stratégiques économiques pour des actionnaires, alors que c'est pas nécessaire au détriment des photographes, au détriment des clients. Donc, on a commencé à faire des démarches et finalement, je pense que je ne le ferai pas.
Ok, c'est intéressant.
Et du coup, je me suis longtemps comparée à eux et finalement, il n'y a aucune comparaison à avoir. On n'est pas sur le même marché. Ils peuvent se permettre de lever des sommes aussi élevées parce que ben ils travaillent pour des B2B. C'est là où le marché est florissant, alors que le B2C, le panier moyen pour un mariage, c'est 1 400 € et c'est un one shot. Alors qu'un B2C, il va te réserver 50 shootings au mois, par exemple. Je donne un chiffre au hasard, bien évidemment. Mais je trouve que c'est aussi grâce à eux que les solutions comme la mienne et que d'autres concurrents ont pu s'installer sur le marché.
Complètement d'accord. C'est intéressant d'avoir ton point de vue. Et finalement, la leçon qu'on en tire, c'est... Moi, tu sais, je dis souvent, il y a deux cancers de l'entrepreneur. J'en parlais encore dans une interview qui est sortie hier avec Valran, le CEO de Le Crayon. Je ne sais pas si tu connais ce média. Je disais, voilà, la plupart des entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est deux erreurs. C'est un, se comparer aux autres. Deux, vouloir aller trop vite.
Exactement.
Là, tu viens d'évoquer une des erreurs et je te rejoins à 200%. Et la leçon qu'il y a derrière, c'est éventuellement, si tu veux te comparer à quelqu'un ou à quelque chose, fais-le en prenant en compte tous les tenants et aboutissants et en étant sûr et certain que vous vous attaquez au même marché avec les mêmes armes dans le même contexte. Et là, peut-être, ça peut être intéressant de se comparer parce que là, comme tu le dis, voilà, eux s'adressent à du B2B, vous vous adressez essentiellement à du B2C et du coup, c'est totalement différent.
Exactement. Et alors, c'est pas pour autant qu'on ne fait pas de B2B, mais on n'a pas du tout la même démarche.
Dans le sens où
on travaille avec des grandes maisons et l'objectif, c'est de faire du travail de qualité. Alors, je dénigre pas du tout la multitude de shootings par compte, mais nous, notre objectif, c'est pas de faire de l'image poubelle. C'est-à-dire que l'image, elle reste. C'est-à-dire que la photo, elle peut être réutilisée pendant 5 ans jusqu'à que l'entreprise change de stratégie de communication. Nous, voilà, c'est des photos qui sont utilisées sur du long terme. On n'est pas sur un shooting c'est juste pour une plateforme qui va durer un an et que finalement, le partenaire rompt avec la plateforme, il ne peut plus utiliser les photos et les photos vont à la poubelle. Donc nous, on est vraiment sur des images qui durent dans le temps. C'est ce qui rejoint notre objectif pour cette année, que la photo ait plus de valeur qu'elle n'avait avant.
Ouais, c'est un vrai challenge finalement, surtout quand... On prend des photos de tout et de rien tout le temps avec nos téléphones pour au final même pas se souvenir qu'on dispose de ces photos et encore moins du coup les exploiter finalement.
C'est ça.
Une autre question, c'est voilà, votre headline aussi, c'est votre photographe professionnel au meilleur prix, des forfaits simples et abordables, si je lis votre site en même temps que cet épisode, et je peux que confirmer, en témoigner, et on peut le voir d'ailleurs sur le site, vous faites mariage, enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, naissance, grossesse, portrait, sport, événement familial, immobilier, et à des prix qui sont quand même relativement abordables, tu vois, mariage à partir de 190 €, même si après tu as différents types de formules selon la temporalité, naissance à partir de 150 €, portrait à partir de 75 €. Et moi, je le vois à chaque fois lorsque je faisais appel à vos services. C'est vrai que ce sont des paniers qui sont totalement abordables par rapport à l'objectif et par rapport au rendu aussi. Comment vous faites pour pouvoir présenter, proposer des prix aussi abordables, concurrentiels et accessibles dans le marché de la photographie où parfois, bah justement, enfin moi je vois avant de vous connaître, avant aussi d'avoir ma boîte de prod, et du coup c'est aussi, parfois c'est des indépendants, parfois c'est en interne, j'organisais des séminaires, je faisais des séminaires, je voyais des photographes en séminaire, on était tout de suite sur une journée, deux journées de séminaire, entre 800 et 1200 euros la journée, voire 2000 euros les deux jours, etc. Et c'est quand même des budgets qui sont conséquents, et que si tu n'as pas les moyens de le faire et que tu es un particulier, ben, tu te refuses le fait de faire appel à un professionnel.
Alors, c'est effectivement, on est sur une tarification qui ne reflète pas réellement le marché du photographe indépendant. Parce que notre volonté, c'était de mettre un petit coup de pied à la fourmilière et de dire, voilà, nous, on a des prix qui sont transparents, des tarifs transparents, où on a des forfaits à la carte. Et ça, en fait, c'est quand même assez novateur sur le marché, puisque généralement, quand on a besoin d'un photographe, il va tarifier en fait sa demi-journée. Alors que là, si tu as besoin d'une demi-heure, d'une heure, une heure et demie, c'est des petits forfaits, donc du coup, c'est des petits prix. Aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que un photographe indépendant, au-delà de la prise de vue, de la retouche des photos et de leur transmission, il va devoir travailler son marketing, travailler sa communication, sa démarche commerciale. Donc, ça lui prend du temps au niveau de l'acquisition client. Donc, ça aussi, il faut qu'il impacte dans sa tarification. Nous, on peut se permettre d'avoir des prix bas parce que déjà, nous, on est commissionnés par rapport au forfait que tu vois d'afficher, et que toute la partie commerciale et comptabilité et marketing, le photographe ne fait rien de tout ça. En fait, lui, il reçoit une mission par SMS, il accepte et il refuse, selon sa disponibilité, et le client est à lui. Il n'est pas là à faire 3-4 devis pour correspondre au budget du client ou pour déterminer le brief, le cahier des charges. Il n'y a pas autant d'aller-retour. Le client, il a une fois au téléphone, il va en shooting, c'est plié.
Tout est géré. Tout exactement. Est géré par vous. Ouais, je vois, c'est pertinent. Et sauf si ce sont des chiffres que tu ne peux pas forcément communiquer publiquement, en gros, la marge qui vous revient et la marge qui revient au photographe, ça se situe comment, à combien globalement, qu'on ait une idée aussi de se dire, parce que finalement, pour le photographe, ça peut peut-être être problématique ou pas de se dire, ok, je vais me déplacer, imaginons 30 minutes aller, 30 minutes de retour pour juste une heure de photo, etc. Il faut que ça soit quand même rentable pour lui.
Bien sûr. Bah, là-dessus, ce n'est pas des données qui sont confidentielles puisque c'est assez public. On en parle quand on passe ces entretiens avec nos photographes. Okay. Nos photographes, ils sont rémunérés entre 90 et 100 euros de l'heure.
D'accord.
Donc, ça veut dire que tout ce qui va au-dessus, c'est notre commission. La commission, chez nous, on retire 25% de la TVA, par exemple. Et ensuite, on a à peu près 10 à 15% selon la séance de commission.
D'accord.
Faut pas oublier que okay. Nous, voilà... On verse la TVA, donc il y a aussi, parce que parfois on nous disait, votre commission elle est énorme, on verse la TVA en France, donc on a l'obligation de ne pas le prendre en compte dans notre commission.
Finalement, l'associé qui est le plus profitable dans votre business, c'est l'État, avec la TVA qui du coup représente plus que le montant de votre commission.
Exactement.
Ok, bon, c'est souvent ça malheureusement en France, où l'État prend plus de marge que le gérant du business lui-même et que le business lui-même. Aussi, un autre point, je rebondis, tu évoquais tout à l'heure voilà, le fait que vous êtes passé de plateforme à agence, sauf erreur en 2019, si mes souvenirs sont bons.
Oui, c'est ça.
Quelles sont les raisons qui ont fait que vous avez voulu passer de plateforme à agence? Quels sont les enjeux, les avantages et les inconvénients liés à ça?
Alors, à l'époque, du coup, on était une plateforme, les clients réservaient selon un portfolio, selon une tarification. Et en fait, on s'est rendu compte que, d'une part, beaucoup de photographes n'avaient pas le temps de répondre, que le client était déjà parti et il répondait plus aux messages. Donc ça veut dire qu'on perdait de l'argent, puisque un client qui arrive sur la plateforme, ça coûte de l'argent. Donc le client, on perdait de l'argent et en plus il repartait, il revenait plus. Normal, le photographe, il travaille durant sa journée, il fait des shoots, il répond en fin de journée. C'est totalement normal. Et le deuxième point, c'est que le client, en fait, vu qu'on nous, on était au tarif horaire, puisqu'on est sur des services à la carte, eh ben, allait au moins cher. Il allait au moins cher, donc on avait beau mettre des tarifs minimum. On s'est retrouvé un jour avec un gars qui avait réussi à mettre un tarif à 30 euros de l'heure. 30 euros de l'heure, c'est pas du tout. Enfin, c'est une insulte pour les autres photographes sur la plateforme, quoi. C'est pas chouette. Et du coup, en fait, le client allait toujours au moins cher. Donc, on s'est dit, non, il y a un souci. On ne règle pas le problème. C'est-à-dire que le client, en fait, il a masse de photographes devant lui, sur son secteur. Entre les photographes de qualité qui n'ont pas le temps de répondre, qui répondent en fin de journée et qui finalement le client il est parti voir ailleurs ou il est parti voir moins cher, et le client qui va directement au moins cher et qui finalement s'en fiche de la qualité. Parti sur de ce postulat-là, on s'est dit ben notre vision aujourd'hui elle est pas bonne. La plateforme, on solutionne pas le marché. Et on a passé, franchement, j'ai passé 3 mois à réfléchir, à faire de la veille concurrentielle, regarder un peu à l'étranger, comment était consommée la photographie. Vraiment, ça a été un casse-tête parce que pour moi, la plateforme au départ, c'était une superbe idée. Et finalement, désillusion, on perd plus d'argent qu'on en gagne. Et on se retrouve avec des photographes qui n'ont pas de mission. En tout cas, du moins, peu de missions par rapport à la promesse qu'on avait. Et finalement, je commençais à avoir des B2C qui m'appelaient pour avoir des séances photos. Okay. Et en fait, je faisais le job que je fais maintenant, mais avec les B2C. Donc, je leur trouvais un photographe. Et finalement, petit à petit, je me suis dit, mais c'est ce qu'il faut faire pour les B2C. C'est en fait prendre en charge leurs demandes et leur mettre à disposition un photographe.
Ok, je vois. Et justement, quand tu démarres au départ, tu n'as pas forcément ces 2000 photographes partout, toutes ces personnes qui peuvent backer l'éventualité d'une personne pas disponible, etc. Comment tu t'y prends au départ? Comment vous y prenez au départ pour pouvoir faire en sorte que ça avance?
Justement, c'est le fait d'être une plateforme au départ.
Ok. Donc, tu as recruté dans les utilisateurs, les meilleurs utilisateurs de ta plateforme, les premiers photographes qui voulaient faire partie de l'aventure en transformation agence pour maintenir un certain standard, une certaine qualité.
Exactement. Mais franchement, en avril 2019, quand on a annoncé ce pivotage, on a perdu grave des photographes parce qu'en fait, les photographes s'inscrivaient chez nous. En plus, l'inscription, elle est gratuite. Aujourd'hui, tu n'as aucune plateforme qui permet à des photographes de s'inscrire gratuitement. Donc nous, on était gratuits, donc les photographes s'inscrivaient parce que ça faisait monter le référencement. On le mettait aussi en avant, qu'on travaillait le référencement. Donc quand on leur a dit que les profils n'étaient plus visibles et que c'était nous qui allions faire la sélection, on a perdu plein de photographes. Et tant mieux, parce que ça fait un tri. Faisait un tri, et moi, c'était simple. Les photographes avec qui je parlais depuis 2 ans, avec lesquels ils avaient pu me dépanner sur des missions dernière minute. Petit à petit, en fait, j'ai fait du tri. Enfin, on a fait du tri et on s'est retrouvé avec une équipe de photographes qui avait envie et qui voulait participer à cette nouvelle aventure, finalement.
Je vois. Par curiosité, tu as, j'imagine, ce chiffre. C'est quoi le taux de récurrence des clients en moyenne, en général? Exemple, comme moi, j'ai dû utiliser la plateforme, je ne sais pas quand c'est la première fois, on pourrait le retrouver peut-être dans votre base de données, mais il y a de ça plusieurs années, ça devait être 2019.
Ouais, c'était 2019, j'avais regardé quand tu m'avais contacté. 2019, quand on a pivoté, tu vois, t'es clairement la client cible qui n'a pas le temps de sélectionner, de chercher un photographe, il veut juste une réservation simple, qualitative, point. C'est,
exact.
Et directement, 2019, tu nous as contacté et c'était plié, quoi.
C'est ça. Et du coup, après, justement, j'ai dû faire peut-être depuis 2019, je dirais 4, 5, 6 fois peut-être appel à WeLens, plus quelques recommandations. Alors là, je sais pas combien ça s'est évalué.
Recommandations, mais... beaucoup. Hein.
Ah ouais,
bon, bah oui, pour le coup, beaucoup de recommandations. Hein, pour le coup. Je tiens à te remercier d'ailleurs, parce que effectivement, c'est dans le quotidien, on n'a pas forcément le temps. J'ai dû le faire peut-être une fois, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai quand même eu plusieurs personnes qui venaient de ta part.
Ah bah, c'est chouette, c'est super, c'est que finalement les gens écoutent mes conseils. C'est la preuve.
Exactement.
Donc c'est parfait. Est-ce que vous avez beaucoup de clients comme moi, ou peut-être je suis un petit peu un cas isolé, un cas extrême, je ne sais pas, mais qui vont revenir utiliser la plateforme, le service une fois tous les ans, plusieurs années d'affilée, ou deux fois tous les ans, plusieurs années d'affilée, ou c'est plus des one-shot en général?
Alors, en fait, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à quantifier.
D'accord.
Dans la mesure où, déjà, clairement, on a des clients, tous les ans, ils réservent. Souvent, les clients étrangers. Tous les gens, ils reviennent sur leur lieu de vacances, ils réservent une séance. Après, on a beaucoup de personnes qui se marient, le schéma classique, hein, qui se marient grossesse, naissance, anniversaire. Donc, ouais. Je pense qu'on va être à 30% de personnes qui reviennent. Mais tu soulèves un très bon point, parce que ça, c'est une problématique qui revient, c'est que quand les photographes sont très bons, les clients, ils oublient WeLens, hein. Ils se souviennent que du photographe. Même si nous, on a un contact client qui est parfait, on est à l'écoute, on n'essaie pas trop spammer par mail, on est juste au milieu, le photographe, en fait, le client, il a trouvé un photographe quand il a une deuxième demande, il va direct voir le photographe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de solutionner de notre côté, mais qui n'est pas forcément facile, parce que c'est que de l'humain. Mais sinon, on a beaucoup de recommandations. Énormément de recommandations. Tu fais le mariage d'un tel, tu as un tel qui nous contacte derrière. Des clients qu'on a vus dans la sphère personnelle qui finalement après nous réservent par le biais de leur entreprise. On a eu le cas avec DocuSign en novembre. On a fait le mariage d'un de nos mariés et le lendemain, j'ai son manager qui me contacte pour me dire « Bon, j'ai besoin d'un photographe sur 2 jours. Apparemment, vous avez fait le mariage d'un tel et c'était chouette. Donc, c'est des histoires comme ça qui sont hyper drôles, parce que finalement, en plus, il n'y a rien à voir. On peut très bien faire du mariage et ne pas être très bon en corporate. Donc c'est chouette, c'est qu'on se rend vraiment compte qu'on a une vraie plus-value derrière, c'est-à-dire que le client qui veut juste la simplicité revient chez nous. Après, quelqu'un qui a eu de l'affect avec un photographe, il passe en direct avec le photographe et on peut même pas lui en vouloir.
Imaginons excuse-moi, je te coupe, mais imaginons, je suis photographe sur la plateforme, je fais ma prestation, parce qu'effectivement, en général, tu échanges par WhatsApp directement, ouais, ou par message avec le photographe. Là, il n'y a plus forcément l'intervention, la supervision de WeLens, c'est vraiment le client qui échange avec le photographe. Je suis photographe, je fais ma première session, le feeling passe bien, le client est content, je lui envoie les photos via la plateforme WeLens, etc., etc. Et là, je dis au client pendant la session ou le client me dit « Ouais, si je repasse à Paris, j'ai adoré, est-ce qu'on peut refaire des photos ?» Qu'est-ce qui se passe pour moi, photographe, si ça s'apprend sur la plateforme? Est-ce que vous avez une politique très claire de tu pars avec un client, tu pars de la plateforme parce que tu deviens, enfin, tu joues plus dans notre équipe directement, mais tu joues solo, ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement accepté dans cet univers-là?
Alors, en vrai, j'ai pas de réponse claire là-dessus, parce que c'est des choses qu'on peut comprendre. C'est des choses qu'on peut comprendre, parce que quand tu as eu un bon feeling avec le photographe, pour moi, c'est évident que tu as envie de travailler avec lui.
Ouais.
Après, clairement, c'est la rémunération. Quand tu vas sur un, enfin, quand tu prends contact avec un photographe en direct, c'est pas les mêmes tarifs. C'est pas du tout les mêmes tarifs. Donc ça réfrène beaucoup de clients parce qu'ils se rendent compte que finalement, c'est le double de ce qu'ils ont payé chez Willens.
Ouais. Non, mais je te rejoins, mais tu vois, par exemple, dans mon cas, moi, ça m'est arrivé une fois, en transparence, je parle en expérience utilisateur.
Je sais, Alec. Voilà. Je le sais en plus.
Voilà. Donc, tu vois, je suis un bon élève, je te le dis. Mais, j'ai pas eu de mauvaise surprise au niveau du tarif, en plus. Mais je te dis aussi honnêtement, si il y avait eu une section dans mon compte, parce que j'avais regardé, peut-être j'ai mal regardé, hein, mais voilà, je sais pas, un petit clic, un petit truc, voir mes précédents photographes ou replanifier une session avec un photographe coup de cœur, je te dis une bêtise, tu vois, imaginons, je serais repassé par Willens dans le sens où je me dis, bah, tout est géré via la plateforme, c'est le même prix, allez, même si je paye 20 euros de plus, ça me fait plaisir, je sais ce que c'est, comment c'est difficile de gérer un business, etc. Vas-y, il n'y a pas de souci. Et je l'aurais fait. Est-ce que vous avez déjà pensé à ce type de choses ou pas du tout?
Si, on y pense actuellement de plus en plus parce que l'objectif, c'est qu'un nouveau client, ça coûte tellement cher qu'il faut trouver une manière de rendre...
Faire de la rétention.
Exactement. Et c'est vrai qu'au début, on s'en fichait un peu parce que les clients revenaient. Et en fait, c'est pas scalable de toujours être dans la découverte qu'on ait un client qui découvre le service. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est fédérer une communauté auprès d'une solution qui est simple. Donc, effectivement, aujourd'hui, on recherche à garder le client, à le faire revenir régulièrement. Et c'est vrai que c'est l'un de nos challenges de cette année, de se dire il faut que le client revienne chez nous et que même si ça s'est bien passé avec le photographe, qu'il revienne nous dire moi j'aimerais bien avoir à nouveau Étienne par exemple. Et ça arrive déjà, mais derrière combien de personnes qu'on ne connaît pas. Mais c'est vrai que c'est un challenge, mais parce que on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une vraie perte à ce niveau-là.
Ouais, complètement. Ouais, c'est intéressant comme question et comme sujet.
Ouais, totalement.
Si on sort un petit peu du contexte Willens plus pour un conseil généraliste. Comme dit, c'est un business model qui, sur le papier, présente beaucoup d'avantages, beaucoup d'intérêts et donc beaucoup d'attraits. Moi-même, j'ai déjà réfléchi quand je démarrais dans l'entrepreneuriat ou quand j'avais des rêves d'entrepreneuriat entre 2013, 2015, 2016. Je disais, un jour, je vais créer une marketplace, etc. Où tu vois aujourd'hui, d'ailleurs, même dans l'e-commerce, la plupart des sites e-commerce de base, monoproduit marche de moins en moins. L'ère de la marketplace est en train d'exploser. J'en parlais dans un précédent podcast avec un ami qui est le CEO d'un site leader en Suisse dans les produits sportifs, bien-être, etc., qui s'appelle bodysport.ch. Et lui, il est vraiment en plein en train de vivre cette ère de la marketplace. Et finalement, cette plateforme, c'était aussi une marketplace mettant en relation photographe et client. Imaginons les gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a qui veulent lancer une marketplace ou qui s'intéressent à ce business model. Quels sont les différents conseils ou les différents retours d'expérience que tu pourrais partager de par ton expérience vécue, mais aussi, j'imagine, de par l'expérience que tu as pu voir autour de toi au fur et à mesure de ces dernières années?
Eh bien, écoute, je suis pas du tout d'accord avec toi, Alec.
Ok.
En fait, justement, moi, j'étais pareil que toi. Pour moi, la marketplace, c'était l'avenir. C'était trop chouette de simplifier une réservation d'un artisan, d'un artisan, d'un entrepreneur. Et en fait, moi, je suis plus du tout dans cette démarche-là.
Ok.
Aujourd'hui, parce que je trouve qu'en fait, la marketplace, c'est inhumain. Pourtant, j'étais une marketplace, donc je me dis que je suis aussi inhumaine dans ma réflexion. Hein. Mais en fait, je trouve que c'est un modèle qui a fonctionné pendant longtemps, qui a fait beaucoup rêver, qui a généré beaucoup de cash. Et c'est bien parce qu'on a remis aussi en cause le marché de l'époque sur les entreprises qui avaient pignon sur rue. Mais en fait, moi, aujourd'hui, je suis vraiment dans une optique où il faut créer des marques avec impact et valeur, et qu'on n'est plus sur de la mise en relation. Donc effectivement, sur le papier, WeLens, c'est une plateforme de base de mise en relation entre clients et photographes, mais pas que. WeLens aujourd'hui, c'est une agence qui par son ambition et sa vision, rend accessible la photographie et te permet en fait d'avoir des photos d'un moment important dans ta vie. Donc on n'est plus du tout dans ce rapport de mise en relation, ou qui dit mise en relation, commission, positionnement sur l'affichage du site, sponsoring, et on n'est plus du tout là-dedans, on est vraiment sur rendre un service de qualité.
Ouais.
Et moi aujourd'hui, je suis vraiment dans cette dynamique-là. Alors, je suis la première à utiliser des marketplaces pour le coup. Je suis vraiment la première. Mais moi, en tout cas, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, je trouve que ça n'a plus de sens. Parce qu'avec Instagram, avec les réseaux sociaux, LinkedIn, on n'a plus besoin de marketplace pour se vendre. À l'époque, on allait sur des marketplaces pour pouvoir générer des leads. Ben maintenant, en fait, les leads, tu peux les générer toi-même gratuitement ou juste en mettant une pub sur Instagram ou sur Google ou Facebook, par exemple. Donc, on n'a plus besoin de marketplace spécialisé. Aujourd'hui, on a besoin de marques qui fédèrent et qui ont une vision et une ambition dans un marché et qui souhaitent remettre en question quelque chose dans ce marché-là.
Ok. Ok, je vois. Et si tu devais donner des good practice ou step by step, hein, une sorte de plan d'action à quelqu'un qui voudrait justement rentrer dans ce marché-là ou justement appliquer les différents conseils que tu viens d'évoquer, qui se dit ouais, la vision est celle que j'ai également, ce serait quoi toi ton plan step by step pour avancer en ce sens?
Alors déjà, nous connaître bien son marché, je pense que c'est le plus important. Connaître son marché, c'est que ce soit ses partenaires ou ses concurrents, de prendre son temps, ne pas se comparer et prendre son temps. C'est ce que je disais au début de notre échange, c'est garder en tête ta vision, ça c'est sûr, mais surtout ne pas trop mettre en question. En fait, tu vas avoir plein de stimulus autour de toi qui va te dire « Ah, mon idée, elle est nulle. Ce que je fais, il y a quelqu'un qui peut le proposer en mieux, mais avec un angle de vue différent. » Non, en fait, si tu as une vision qui te motive, continue jusqu'à ce que tu puisses trouver le bon code qui va te faire cartonner, en fait.
Ouais, je vois.
C'est vraiment les trois conseils que je donnerais qui pour le coup m'ont fait défaut pendant ma carrière bien évidemment mais pour moi c'est hyper important de les garder en tête parce que ça peut te freiner à ton développement.
On n'a pas encore parlé de ça et ce sera mon avant-dernière question pour toi. Comment vous avez géré le Covid? Parce que finalement votre business model, c'est de se déplacer, de faire des photos en intérieur ou en extérieur. Donc, quand il n'y a plus d'événements, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus forcément de possibilité d'aller à l'extérieur pour faire des photos, etc. Est-ce que vous avez mis votre business complètement en pause? Est-ce que vous avez adapté la proposition de valeur que vous aviez? Comment ça s'est passé pour vous?
Alors, pour le premier confinement, c'était en pause totale. On ne pouvait rien faire. On pouvait plus de séances, que ce soit pour le B2C ou le B2B. Donc, on a mis en pause, mais par contre, on continuait le dev. Donc, c'est-à-dire acheter des fonctionnalités, réfléchir au business, l'améliorer. Surtout qu'on était en 2020, ça faisait à peine, même pas un an qu'on venait de pivoter. Donc, ça veut dire qu'en fait, en réalité, on aurait mis la clé sur la porte, clairement. Ouais, mais finalement, on ne l'a pas fait parce que vu que Enfin, je ne l'ai pas fait parce qu'à ce moment-là, mes associés sont partis. Je ne l'ai pas fait parce que pour moi, le business model, le nouveau business model n'avait pas été validé dans son entièreté. On avait fait une saison avec, ce n'était pas suffisant parce qu'il y avait encore eu des petits bugs, des choses comme ça à améliorer. Je comptais vraiment sur la saison 2020 pour pouvoir valider ce pivotage. Et ensuite, on a eu plusieurs, tu sais, plusieurs confinements à la après avec des restrictions le soir, le week-end, des choses comme ça. Et en gros, on faisait que du B2B principalement. Après, on a eu énormément de pertes, mais l'objectif, c'était après pour nous de prendre du temps pour se poser sur le business. Moi, en tout cas, c'était mon objectif en me disant, tant pis, ça va être une année blanche. On avait la trésorerie pour l'affronter, donc c'est ça qui était cool, parce que je pense, quand t'as pas de trésorerie, en vrai tu fermes boutique. Donc nous on avait la trésorerie, on avait la chance que moi à l'époque j'avais un gestionnaire financier qui était vraiment bien pour le coup là-dessus, qui était hyper vigilant sur tout, donc on a pu garder le cap. Avoir une année blanche, c'est quand même difficile pour une entreprise, surtout quand elle vient de pivoter. Et ensuite, on était vraiment sur le demain. Parce que sur l'instant, on pouvait rien faire. On ne pouvait pas trouver de solution. Le photographe, on ne peut pas le téléporter. On n'avait aucune solution. Donc, en gros, c'était préparer la fin, entre guillemets, du Covid. C'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qui nous a permis d'être en 2023 et d'être encore là, quoi.
Ouais, c'est super intéressant, j'ai bien fait de te poser cette question parce que c'est quand même, même si vous êtes en ligne en tout cas pour la partie agence et que vous gérez tout de vous-même, finalement c'est un business physique que vous avez et c'est des enjeux liés aux possibilités du business physique. Donc c'est super, super intéressant comme sujet. J'ai vraiment adoré cet épisode et d'ailleurs si vous qui nous écoutez... ont eu autant de plaisir à nous écouter que j'ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir en mettant les 5 étoiles sur Apple Podcast, le petit avis, les 5 étoiles sur toutes les plateformes dont Spotify et en partageant cet épisode un maximum. En plus, voilà, c'est une première pour Yasmine, donc il faut que cet épisode explose en termes d'écoute et en termes de retour, ça serait magnifique. Plus sérieusement, j'ai une dernière question pour toi, question que je pose à chaque fois aux différentes personnes que j'ai sur le déclic, c'est est-ce que tu peux nous partager quelque chose que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, qui pour toi, que ce soit dans ta carrière professionnelle ou dans ta vie personnelle, a créé vraiment un déclic ou une transformation identitaire ou une cassure de pattern, un changement de paradigme par rapport à différentes choses. Ça peut être une situation, ça peut être une citation, ça peut être une simple phrase, ça peut être un chamboulement, peu importe. Même que tu ne l'as pas vécu toi-même, mais que tu l'as vu et derrière tu t'es dit wow, « Waouh, c'est ça en fait, pourquoi je n'y ai jamais pensé ?» ou « Il faut que je le partage. » Tu as vraiment carte blanche pour ce partage.
C'est méga dur. C'est une question qui est hyper dure. Perso ou pro, moi, je parlerais de passion, surtout.
D'accord.
En fait, quand t'es passionné et que t'aimes ce que tu fais, en fait, t'as aucun obstacle devant toi. C'est que des opportunités. Et pour moi, en fait, qui n'est pas issu d'une famille d'entrepreneurs... j'ai pas tous mes potes qui sont entrepreneurs non plus. En fait, ça, j'ai dû l'apprendre seule, puisque quand j'ai pas fait mes études pour travailler de ma passion, j'ai fait des études pour un salaire. Et aujourd'hui, en fait, je travaille pas pour un salaire, je travaille pour la liberté, pour l'amour de donner, pour en fait être alignée avec moi-même. Et en fait, Si t'as ça en toi, tu peux tout faire, tu peux avoir tous les obstacles du monde, mais t'arriveras quand même à avancer.
Complètement, complètement d'accord. C'est une super conclusion, c'est un super partage. Je te remercie pour ça et pour cet épisode. Ça fait super plaisir d'avoir pu échanger avec toi sur tous ces sujets. Et la prochaine fois que je ferai appel à un photographe freelance, je repenserai à cet épisode. Et je
avec me dirai, plaisir. Ah,
c'était un plaisir, c'était cool. Mais, et même, j'inviterai la personne qui prendra les photos à aller écouter cet épisode.
Merci infiniment, en tout cas, Alec, pour cette proposition. C'est trop chouette pour moi, parce que, comme je te l'ai dit, je sors de ma zone de confort. J'ai l'habitude de travailler dans mon coin, à peu me mettre en avant. Et c'est chouette que tu puisses le faire, parce que rien que juste en tant que femme, on a beaucoup moins la démarche. Ça change, ça commence à changer, ça qui est chouette. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette démarche-là de crier haut et fort ce qu'on fait et ce qu'on est. Et merci à toi de nous le permettre, en fait. Merci à toi.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Merci.